Aristote, Morale à Œdème, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Livre 3, chapitre 1 à 4, compris. Analyse de quelques vertus particulières. Chapitre 1er. Sommaire. Du courage. C'est un milieu entre la lâcheté et la témérité. Portrait du lâche et de l'homme courageux. À quels objets s'applique le courage? Définition du danger. L'homme de courage peut être effrayé quelquefois, mais il sait toujours se soumettre aux ordres de la raison. 5 espèces de courage. Citation de Socrate. Examen de quelques questions particulières. Les choses vraiment à craindre sont celles qui peuvent amener la mort et une mort prochaine. Influence de l'organisation sur le courage. Courage aveugle des Celtes et en général des barbares. Citation d'Agathon. Courage des matelots et des soldats. Citation de Théognis. Courage par honneur, citation d'Homère. Résumé de la théorie sur le courage. Paragraphe 1. Nous avons jusqu'ici démontré, d'une manière toute générale, que ce sont des milieux qui forment les vertus, et que ces vertus ne dépendent que de notre intention. Nous avons démontré aussi que les contraires de ces milieux sont des vices, et nous avons indiqué ce qu'ils sont. Donnons maintenant une analyse de chaque vertu en particulier, et commençons par le courage. Paragraphe 2. On paraît en général à peu près d'accord pour reconnaître que l'homme courageux est celui qui sait résister à tous les genres de craintes, et que le courage doit prendre rang parmi les vertus. Aussi, dans les divisions portées au tableau que nous avons tracé, nous avons placé l'audace et la peur comme étant des contraires, et l'on doit avouer qu'elles sont en quelque sorte opposées l'une à l'autre. Paragraphe 3. Il est clair également que les caractères dénommés d'après ces manières d'être diverses ne seront pas moins opposés entre eux. Par exemple, le lâche et le téméraire seront réciproquement contraires, car le lâche est ainsi appelé parce qu'il a plus peur et moins de courage qu'il ne faut, tandis que l'autre est fait de telle sorte qu'il a moins peur qu'il ne faut et plus d'assurance qu'il ne convient. C'est là ce qui fait qu'on peut le désigner par un nom dérivé. Et le téméraire est appelé ainsi par dérivation de témérité. Paragraphe 4. Par conséquent, le courage étant l'habitude et la disposition la meilleure de l'âme en ce qui concerne la crainte et l'assurance, il ne faut être ni comme les téméraires, qui ont de l'excès en un certain point et du défaut dans un autre point, ni comme les lâches, qui sont également incomplets, si ce n'est qu'ils ne le sont pas de la même manière, mais qu'ils le sont dans des sens tout contraires, car ils pêchent par défaut d'assurance et par un excès de crainte. Donc, le courage, évidemment, est la disposition moyenne qui tient le milieu entre la témérité et la lâcheté. Et de plus, c'est sans contredit la meilleure. Paragraphe 5. L'homme brave paraît le plus souvent n'éprouver aucune crainte. Et le lâche, au contraire, est toujours dans les transes. Celui-ci craint sans cesse le peu et le beaucoup, les petites choses comme les grandes, il s'effraie vite et fort. Celui-là, au contraire, ne craint pas du tout, ou craint fort peu. Il craint difficilement et seulement les grands dangers. L'un sait supporter les choses les plus redoutables. L'autre ne sait pas même endurer celles qui méritent à peine qu'on les redoute. Paragraphe 6. Mais d'abord, quelles sont précisément les choses qu'affronte l'homme de courage? Est-ce le danger qui lui paraît à redouter à lui-même, ou le danger qui en est un dans l'opinion d'un autre? S'il ne fait que braver les dangers qui semblent tels à autrui, on pourrait trouver qu'il n'y a là rien de bien merveilleux. Et si ce sont des dangers qu'il croit réels personnellement, ce courage peut n'être grand que pour lui tout seul. Les choses qui sont à craindre n'inspirent à chacun de la crainte que dans la mesure où elles lui semblent à craindre. Si elles lui paraissent à craindre excessivement, la crainte est excessive. Si elle lui semble peu à craindre, la crainte est faible. Par conséquent, il se peut fort bien que l'homme courageux éprouve des craintes aussi violentes que nombreuses. Mais tout à l'heure, nous disions, au contraire, que le courage met l'homme à l'abri de toute espèce de crainte et qu'il consiste soit à ne rien craindre, soit à craindre peu de choses et à ne craindre que faiblement et à grand-peine. Paragraphe 7. Mais peut-être le mot de redoutable a-t-il, comme les mots d'agréable et de bon, deux sens très différents. Ainsi, il y a des choses qui sont absolument agréables et bonnes, tandis que d'autres ne le sont que pour telle personne, et, loin de l'être absolument, sont au contraire mauvaises et désagréables, comme par exemple toutes celles qui sont utiles aux êtres méchants et pervers, ou qui ne peuvent être agréables qu'aux enfants en tant qu'enfants. Paragraphe 8. Il en est tout à fait de même pour les choses qui peuvent causer de la crainte. Les unes sont absolument redoutables, d'autres ne le sont que pour certaines personnes. Ainsi, les choses que le lâche redoute en tant que lâche ne sont à redouter pour personne que lui, ou le sont du moins fort peu. Mais ce qui est à redouter pour la plupart des hommes et ce qui est vraiment à craindre pour la nature humaine, voilà ce que nous regardons comme étant absolument à craindre. Paragraphe 9. C'est contre les choses de ce genre que l'homme de courage reste sans crainte. Il affronte les périls qui sont en partie redoutables pour lui et qui, en partie, ne le lui sont pas. Redoutable en tant qu'il est homme, non redoutable en tant qu'il est courageux, ou du moins très peu redoutable, ou même pas le moins du monde à redouter. Cependant, ce sont là des choses qui sont réellement à craindre, puisqu'elles sont à craindre pour la plupart des hommes. Paragraphe 10. Aussi, cette manière d'être est-elle digne de louange, et l'homme courageux est regardé comme aussi complet en son genre que le sont dans le leur l'homme fort et l'homme bien portant. Ce n'est pas du tout que ces hommes, tels qu'ils sont, puissent être au-dessus de toute atteinte. Celui-ci, en résistant à la fatigue, et celui-là en supportant tous les excès en quelque genre qu'ils soient. Mais ils sont dits sains et forts parce qu'ils ne souffrent point du tout, ou du moins parce qu'ils souffrent fort peu de ce qui fait souffrir bien des hommes, ou mieux, la plupart des autres hommes. Paragraphe 11. Les gens valétudinaires, les faibles et les lâches, souffre des épreuves et des impressions les plus communes, ou plus vite ou plus vivement que le reste des hommes. Et d'autre part, dans les choses où la majorité des hommes souffrent réellement, ils ne souffrent pas du tout, ou du moins, ils ne souffrent que fort modérément. Paragraphe 12. On peut élever la question de savoir s'il n'y a vraiment rien de redoutable pour l'homme de courage et s'il est impossible qu'il soit jamais effrayé. Mais qui empêche que, lui aussi, ne ressente la peur dans la mesure que nous avons indiquée? Le courage véritable est une soumission aux ordres de la raison. Or, la raison ordonne de choisir toujours le parti du bien. Aussi, l'homme qui ne s'est pas guidé par la raison, supporter ses nobles périls, a perdu le sens, ou il n'est que téméraire. Celui-là seul est véritablement courageux, qui se met au-dessus de toute crainte pour accomplir le bien et le devoir. Paragraphe 13. Ainsi, le lâche redoute ce qu'il ne faut pas redouter. Le téméraire montre une aveugle assurance là où il ne devrait pas en avoir. L'homme courageux sait seul faire dans les deux cas ce qu'il faut, et par là, il tient le milieu entre les deux excès. Il craint et il brave ce que la raison lui ordonne de craindre et de braver. Or, la raison n'ordonne jamais de supporter les grands et mortels dangers, à moins qu'il n'y aille de l'honneur à le faire. Paragraphe 14. En résumé, tandis que le téméraire se fait un jeu de les braver, même quand la raison ne l'ordonne pas, et que le lâche ne sait pas les affronter, même quand elle le commande. Le vrai courage est celui qui sait toujours se conformer aux ordres de la raison. Paragraphe 15. Il y a 5 espèces de courage que nous désignons tous de ce nom par la ressemblance qu'elles ont entre elles. Les dangers qu'on supporte dans ces cas divers sont les mêmes, mais ce n'est pas par les mêmes motifs. La première espèce de courage est le courage civil, et c'est le respect humain qui le produit. La seconde, c'est le courage militaire. Ce courage vient de l'expérience qu'on a faite antérieurement et de la connaissance que l'on a, non pas du danger, comme le disait Socrate, mais des ressources qu'on aura dans le danger. Paragraphe 16. La troisième espèce de courage est celui qui tient à l'inexpérience et à l'ignorance. C'est celui des enfants et des fous qui supportent, les uns, tout ce qu'on leur voit endurer, et les autres qui prennent à poigne-main des serpents. Une autre espèce de courage est celui que donne l'espérance. Il fait affronter tous les dangers à ceux qui ont fréquemment réussi, et qui s'enivrent de leur succès comme les gens à qui les fumées du vin procurent les espérances les plus riantes. Paragraphe 17. Une dernière espèce de courage est celui qu'inspire une passion sans raison et sans frein, l'amour ou la colère. Quand on est amoureux, on est en général téméraire plutôt que lâche, et l'on affronte tous les dangers, comme ce héros qui tua le tyran de Métaponte, ou celui dont la mythologie a placé les exploits dans la Crète. La colère et les emportements du cœur nous font faire les mêmes prouesses, car les élans du cœur nous mettent hors de nous. Voilà aussi comment les bêtes féroces nous font l'effet d'avoir du courage, bien qu'elles n'en aient pas, à vrai dire. Quand elles sont poussées à bout, elles se montrent courageuses. Mais quand elles ne sont pas mises hors d'elles-mêmes, elles sont aussi inégales que le sont les hommes téméraires. Paragraphe 18. L'espèce de courage qui vient de la colère est la plus naturelle de toutes, car le cœur et la colère sont en quelque sorte invincibles. Et voilà pourquoi les enfants se battent si bien. Paragraphe 19. Quant au courage civil, il s'appuie toujours sur des lois. Mais le véritable courage n'est dans aucune des espèces que nous venons d'énumérer, bien que ces différents motifs puissent être tous invoqués fort utilement pour le provoquer et le soutenir dans les dangers. Paragraphe 20. Après ces généralités sur les diverses espèces de dangers que l'on peut craindre, il sera bon d'entrer dans quelques détails encore plus précis. On appelle d'ordinaire choses à craindre toutes celles qui produisent la crainte en nous, et ce sont toutes les choses qui paraissent devoir nous causer une douleur capable de nous détruire. Quand on s'attend à une douleur d'un genre différent, on peut bien éprouver une autre émotion et une toute autre souffrance, mais ce n'est plus de la crainte. Et, par exemple, quelqu'un peut beaucoup souffrir en pressentant qu'il endurera bientôt la peine que fait éprouver l'envie ou la jalousie ou la honte. Paragraphe 21. Mais la crainte proprement dite ne se produit que par rapport à ces douleurs qui nous semblent, par leur nature, capables de détruire notre vie. Voilà ce qui explique comment des gens fort mous, d'ailleurs, montrent dans certains cas beaucoup de courage, et comment d'autres, qui sont aussi fermes que patients, montrent parfois une singulière lâcheté. Paragraphe 22. Aussi, le caractère propre du courage paraît-il éclater à peu près exclusivement dans la façon dont on regarde la mort et dont on supporterait la douleur qu'elle cause. En effet, on a beau supporter les excès du chaud et du froid et endurer toutes ces épreuves qu'ordonne la raison, mais qui sont sans danger, si l'on montre de la faiblesse et de la crainte devant la mort, sans aucun autre motif que l'effroi de la destruction même qu'elle nous apporte, on passera pour un lâche, tandis qu'un autre, qui sera sans force contre les intempéries des saisons, mais impassible en face de la mort, passera pour un homme plein de courage. Paragraphe 23. C'est qu'il n'y a de vrai danger dans les choses à craindre que quand on sent tout près de soi ce qui doit causer notre destruction. Le danger ne se montre dans toute sa grandeur que quand la mort est à vos côtés. Ainsi, les choses dangereuses où, selon nous, se manifeste le courage sont bien celles qui semblent devoir causer une douleur capable de nous détruire. Mais il faut en outre que ces choses soient sur le point de nous atteindre, qu'elles ne se montrent pas seulement à distance et qu'elles soient ou paraissent d'une certaine grandeur qui se proportionne aux forces ordinaires de l'homme. Paragraphe 24. Il y a des choses, en effet, qui doivent nécessairement paraître redoutable à tout homme, quel qu'il soit, et le faire frémir. Car, de même que certaines températures extrêmes de chaud et de froid et quelques autres influences naturelles dépassent toutes nos forces, et en général, celles de l'organisation humaine. De même, il est tout simple qu'il en soit ainsi pour les émotions de l'âme. Les lâches et les braves sont dupes de la disposition où ils se trouvent. Le lâche se met à craindre des choses qui ne sont pas à craindre, et celles qui ne sont que très peu redoutables le lui paraissent extrêmement. Le téméraire, au contraire, brave les choses les plus redoutables et celles qui, en réalité, le sont le plus, paraissent l'être à peine à ses yeux. Quant à l'homme courageux, il reconnaît le danger là où il existe réellement. Paragraphe 25. Aussi, n'est-on pas vraiment courageux pour supporter un danger qu'on ignore? Par exemple, si dans un accès de folie on brave la foudre qui éclate, ni même lorsque, connaissant toute l'étendue du danger, on s'y laisse emporter par une sorte de rage, comme les Celtes qui prennent leurs armes pour marcher contre les flots. Et en général, on peut dire que le courage des peuples barbares est toujours accompagné d'un aveugle emportement. Paragraphe 26. Parfois, on affronte encore le danger pour des plaisirs d'une autre espèce, et la colère même a bien aussi son plaisir qui vient de l'espoir de la vengeance. Cependant, si quelqu'un entraîné par un plaisir de ce genre, ou par quelque autre plaisir, se résout à supporter la mort, ou la recherche pour fuir des maux qu'il trouve encore plus grands, on ne saurait, avec justice, lui trouver du courage. Paragraphe 27. Si, en effet, il était doux de mourir, il y aurait bien des gens intempérants qui, emportés par cette aveugle passion, se donneraient la mort. De même que, dans l'ordre actuel, les choses qui provoquent la mort étant douces, si la mort elle-même ne l'est pas, on voit une foule de débauchés qui, tout en sachant ce qu'ils font, s'y précipitent par l'intempérance qui les entraîne. Et cependant, nul d'entre eux ne serait passé pour avoir du courage, bien qu'ils soient tout disposés à mourir pour se satisfaire. On n'est pas courageux non plus quand on meurt pour fuir la douleur, ainsi que le font tant de gens dont parle le poète Agathon quand il dit « Les trop faibles mortels dégoûtés de leur sort, souvent à la douleur, ont préféré la mort. » C'est aussi le cas de Chiron, qui, si l'on en croit la fable, demanda d'être soumis à la mort, tout immortel qu'il était, vaincu par la souffrance cruelle que lui causait sa blessure. Paragraphe 28. On peut en dire à peu près autant de ceux qui supportent les dangers par l'expérience qu'ils en ont. Et c'est là le courage de la plupart des soldats. Toutefois, il en est ici autrement que ne le croyait Socrate, qui faisait du courage une sorte de science. En effet, ceux qui sont instruits à monter sur les cordages des navires ne bravent pas le danger, parce qu'ils savent au juste ce qu'il est, mais parce qu'ils savent les secours qu'ils auront pour s'en tirer. Paragraphe 29. On ne peut pas non plus appeler courage ce qui fait que les soldats combattent avec plus d'assurance, car alors la force et la richesse seraient l'unique courage, selon la maxime de Théognis quand il dit « Tout mortel enchaîné par la rude misère ne saurait rien vouloir et ne saurait rien faire. » Il y a des gens qui, notoirement lâches, savent par la seule expérience du danger fort bien le supporter. Ils s'imaginent qu'il n'y a point de danger sérieux parce qu'ils croient connaître les moyens de l'éviter. Et la preuve, c'est que quand ils pensent qu'ils ne seront pas défendus par ces moyens et que le danger s'approche, ils ne le supportent plus. Paragraphe 30. Mais parmi ceux qui, pour toutes ces causes, affrontent le danger, les gens à qui l'on semblerait avec le plus de raison trouver du courage sont ceux qui s'exposent par respect humain et par honneur. C'est le portrait qu'Homère nous fait d'Hector quand il s'agit du danger qu'il court en se mesurant contre Achille. La honte avec l'honneur saisit l'âme d'Hector. Polydamas, d'abord, m'accablera d'injures. C'est bien là ce qu'on peut appeler le courage social et politique. Paragraphe 31. Mais le vrai courage n'est pas même celui-là, ni aucun de ceux que nous avons analysés. Seulement il leur ressemble, comme ressemble au courage humain le courage des animaux féroces, qui s'emportent avec fureur au moment où le coup vient les frapper. Quand on est exposé à un danger, il ne faut pas demeurer à son poste, ni par crainte du déshonneur, ni par colère, ni par la certitude qu'on a d'être à l'abri de la mort, ni par l'assurance des secours qui vous doivent garantir. Car à ce compte, on pensera toujours qu'il n'y a rien à craindre. Paragraphe 32. Mais rappelons-nous que toute vertu est toujours un acte d'intention et de préférence. Et nous avons dit plus haut en quel sens nous entendions cette théorie. La vertu nous fait constamment choisir, disions-nous, le parti que nous prenons en vue d'un certain but. Et ce but est au fond toujours le bien. Il est donc clair, par suite, que le courage étant une vertu d'une certaine espèce, il nous fera supporter les choses qui sont à craindre en vue d'un but spécial que nous poursuivons. Par conséquent, nous les affronterons non par ignorance, l'effet de la vertu étant plutôt de faire bien juger des choses, non par plaisir, mais par le sentiment du devoir. Car si ce n'était pas un devoir de les affronter, et que ce ne fût qu'un acte de folie, ce serait alors une honte de s'exposer. Paragraphe 33. Voilà à peu près tout ce que nous avions à dire dans le présent traité sur le courage, sur les extrêmes entre lesquels il tient un juste milieu, sur la nature de ces extrêmes, sur les rapports que le courage soutient avec eux, et enfin, sur l'influence que doivent exercer sur l'âme les dangers qu'on peut avoir à craindre. Chapitre 2. Sommaire. De l'intempérance et de la débauche. Sens divers de ces mots. De l'insensibilité opposée à l'intempérance. L'intempérance se rapporte plus particulièrement à deux sens, le goût et le toucher. On pourrait la réduire même au dernier tout seul. Comparaison de l'homme et des animaux. Les animaux ne sont pas intempérants. Sensations diverses qui leur manquent. Citation de Stratonicus. Résumé de la théorie sur la tempérance. Paragraphe 1. Après cette théorie du courage, il faut essayer de traiter de la sagesse, qui sait se tempérer, et de l'intempérance, qui ne se domine jamais. Le mot d'intempérant peut se prendre en plusieurs sens. On peut l'entendre d'abord, si l'on veut, d'après la force du mot grec, de celui qui n'a pas été tempéré ni guéri par les remèdes. De même qu'on dit d'un animal qui n'a pas été coupé, qu'il est incoupé. Mais entre ces deux termes, il y a cette différence que, d'une part, on suppose une certaine possibilité et que de l'autre, on n'en suppose pas. Car on appelle également incoupé et celui qui ne peut être écoupé, et celui qui pouvant l'être ne l'est pas. Paragraphe 2. On peut faire la même distinction pour l'intempérance, et ce terme peut signifier tout ensemble, et ce qui est incapable par nature de la tempérance et de la discipline, et ce qui en est naturellement capable, mais ne les a pas appliqués, dans ce genre de faute qu'évite l'homme tempérant. Par exemple, tels sont les enfants qu'on appelle souvent intempérants, bien qu'ils ne le soient absolument qu'en ce sens. Paragraphe 3. Mais il y a encore une autre sorte d'intempérants. Ce sont ceux qui ne se guérissent qu'avec peine, ou qui ne se guérissent même pas du tout, sous l'influence des soins par lesquels on tâche de les tempérer. Mais, quelles que soient les acceptions diverses du mot d'intempérance, on voit que l'intempérance se rapporte toujours à des peines et à des plaisirs, et que la tempérance et l'intempérance diffèrent entre elles et des autres vices en ce qu'elles se conduisent d'une certaine façon à l'égard des plaisirs et des peines. Nous venons d'ailleurs d'expliquer un peu plus haut la métaphore qui fait donner à l'intempérance le nom qu'elle porte. Paragraphe 4. En effet, on appelle impassibles ceux qui ne sentent rien en présence des mêmes plaisirs qui émeuvent si vivement les autres hommes. Et on leur donne encore d'autres noms analogues. Paragraphe 5. Mais cette disposition spéciale n'est pas facile à observer, et elle n'est pas très ordinaire, parce qu'en général, les humains pêchent bien davantage par l'excès opposé, et que se laisser vaincre à de tels plaisirs, et les goûter avec ardeur, est une chose toute naturelle, à presque tous les hommes sans exception. Ces êtres insensibles sont surtout les espèces de rustres et de sauvages que les auteurs comiques font figurer dans leurs pièces et qui ne savent même pas prendre des plaisirs modérés et nécessaires. Paragraphe 6. Mais si le sage exerce sa tempérance par rapport au plaisir, il faut aussi qu'il est à lutter contre certains désirs et certaines passions. Recherchons quels sont ces désirs particuliers. Le sage n'est pas sage et tempérant contre toute espèce de plaisir, contre tous les objets agréables. Il l'est, à ce qu'il semble, contre deux espèces de désirs qui viennent des objets du toucher et du goût. Au fond même, il ne l'est que contre une seule, qui vient exclusivement du sens du toucher. Paragraphe 7. Ainsi, le sage n'a pas à lutter contre les plaisirs de la vue qui nous font percevoir le beau, et dans lesquels il n'entre aucun désir amoureux ni charnel. Il n'a pas à lutter contre la peine que causent les choses qui sont laides. Il ne résiste pas davantage au plaisir que l'ouïe nous procure dans l'harmonie ou à la douleur que nous font des sons discordants. Il n'a rien non plus à faire avec les jouissances de l'odorat qui viennent de la bonne odeur, ni avec les souffrances qui viennent de la mauvaise. D'autre part, il ne suffit pas pour mériter le nom d'intempérant de sentir ou de ne pas sentir les choses de cet ordre d'une manière générale. Paragraphe 8. Si quelqu'un, en contemplant une belle statue, un beau cheval ou un bel homme, en entendant des chants harmonieux, en venait à perdre le boire et le manger, et tous les besoins sexuels, uniquement absorbés par le plaisir de voir ces belles choses, d'entendre ces admirables chants, il ne passerait pas certainement pour un intempérant, non plus que ceux qui se laissaient charmer aux accents des sirènes. Paragraphe 9. Mais l'intempérance ne s'adresse qu'à ces deux genres de sensations auxquelles se laissent généralement aller tous les autres animaux doués du privilège de la sensibilité et dans lesquels ils trouvent plaisir ou peine, c'est-à-dire les sensations du goût et du toucher. Paragraphe 10. Quant aux autres sensations agréables, les animaux paraissent y être généralement à peu près insensibles. Et par exemple, ils ne jouissent ni de l'harmonie des sons, ni de la beauté des formes. Il n'en est pas un d'eux qu'on puisse réellement citer comme éprouvant quelque jouissance à contempler de belles choses ou à entendre des sons harmonieux, à moins que ce ne soit quelque cas prodigieux. Il ne paraît pas non plus qu'ils tiennent le moindre compte des bonnes ou des mauvaises odeurs. Et cependant, les animaux ont en général toutes les sensations bien plus délicates que les hommes ne les ont. Paragraphe 11. On peut remarquer en outre qu'ils ne prennent plaisir qu'à ces odeurs, qui attirent indirectement et non pas par elles-mêmes. Quand je dis par elles-mêmes, j'entends les odeurs dont nous jouissons autrement que grâce à l'espérance ou au souvenir. Par exemple, l'odeur de tous les aliments qu'on peut manger ou boire ne nous affecte qu'indirectement. Nous en jouissons en effet par des plaisirs autres que les leurs, qui sont ceux de boire ou de manger. Quant aux odeurs qui nous charment par elles-mêmes, ce sont par exemple les odeurs des fleurs. Aussi, Stratonicus avait-il raison de dire que parmi les odeurs, les unes avaient un beau parfum et les autres un parfum agréable. Paragraphe 12. Du reste, les animaux ne jouissent pas en fait de goût d'un plaisir aussi complet qu'on pourrait le croire. Ils ne goûtent pas les choses qui ne font impression que sur l'extrémité de la langue. Ils goûtent surtout celles qui agissent sur le gosier. Et la sensation qu'ils ressentent ressemble plutôt à un toucher qu'à une véritable dégustation. Aussi, les gourmands ne désirent-ils pas avoir une langue bien développée? Ils désirent plutôt un long cou de cigogne, comme Philoxène d'Eryx. Donc, en résumé, on peut dire, d'une manière générale, que l'intempérance se rapporte tout entière au sens du toucher. Paragraphe 13. De même aussi, l'on peut dire que l'intempérant est intempérant dans les choses de cet ordre. L'ivrognerie, la gourmandise, la luxure, la débauche et tous les excès de ce genre ne se rapportent qu'au sens que nous venons d'indiquer et qui comprennent toutes les divisions qu'on peut établir dans l'intempérance. Paragraphe 14. Personne n'est appelé intempérant et débauché pour les sensations de la vue, ni pour celles de l'ouïe ou de l'odorat, même quand il les prend avec excès. Tout ce qu'on peut faire contre ces derniers excès, c'est de les blâmer, sans mépriser pour cela celui qui les commet, comme en général on blâme toutes les actions où l'on ne sait pas se dominer. Mais pour ne pas savoir se modérer, on n'est pas débauché, bien qu'on ne soit pas sage. Paragraphe 15. L'homme insensible, ou quel que soit le nom différent qu'on lui donne, est celui qui est incapable, par insuffisance et défaut, d'éprouver des impressions que tous les hommes partagent ordinairement et qu'ils sentent avec une vraie jouissance. Celui, au contraire, qui s'y livre avec excès, est un débauché. Paragraphe 16. Tous les hommes, en effet, par une loi de leur nature, prennent plaisir à ces choses. Ils en ont des désirs passionnés. Et ils ne sont point réellement pour cela, ni ne sont appelés des débauchés. car ils ne commettent point d'excès, ni par une joie exagérée quand ils goûtent ces jouissances, ni par une affliction sans bornes quand ils ne les goûtent pas. Mais on ne peut pas dire non plus que les hommes, en général, sont indifférents à ces sensations. Car, dans l'un et l'autre sens, ils ne manquent ni de se réjouir, ni de s'affliger. Et ils seraient plutôt dans l'excès sous ces deux rapports. Paragraphe 17. Il peut donc y avoir dans ces diverses circonstances soit excès, soit défaut. Et, par conséquent aussi, il y a possibilité d'un milieu. Cette disposition moyenne est la meilleure et elle est contraire aux deux autres. Ainsi, la tempérance est la meilleure façon d'être dans les choses où la débauche est possible. Elle est le milieu dans les plaisirs qui tiennent aux sensations dont nous avons parlé, c'est-à-dire un milieu entre la débauche et l'insensibilité. L'excès en ce genre est la débauche, le défaut opposé, ou n'a pas de nom, ou bien il doit être désigné par l'un des noms précédemment indiqués. Paragraphe 18. On parlera plus tard, avec plus de précision, de la nature des plaisirs, dans ce qui reste à dire de l'intempérance et de la tempérance. Chapitre 3. Sommaire. De la douceur. Elle se rapporte à la colère, et elle est un milieu entre la dureté qui s'emporte sans cesse et pour rien, et l'humilité qui n'ose jamais s'irriter, même pour les causes les plus légitimes. Paragraphe 1. Il nous faut suivre la même méthode pour analyser la douceur de caractère et la dureté. On voit si un homme est doux par la manière dont il ressent la douleur qui vient de la colère. Dans le tableau que nous avons tracé plus haut, nous opposions à l'homme colérique, dur ou grossier, toute nuance d'une même disposition, l'homme servile et sans jugement. Paragraphe 2. Ces derniers noms, du moins, sont ceux qu'on donne le plus ordinairement à ces gens dont le cœur ne sait pas s'emporter pour les choses qui en valent le plus la peine, et qui, loin de là, se soumettent aisément aux outrages et se montrent d'autant plus bas qu'on les accable davantage de mépris. Dans cette douleur que nous appelons la colère, la froideur, qui a peine à s'émouvoir, est opposée à l'ardeur, qui s'émeut tout à coup. La faiblesse est opposée à la violence, et le peu de durée à la longue durée. Paragraphe 3. Ici, comme pour tous les autres sentiments que nous avons étudiés, il peut y avoir excès ou défaut. Ainsi, l'homme irascible et dur est celui qui s'emporte plus violemment, plus vite et plus longtemps qu'il ne faut, dans des cas où il ne le faut pas, pour des choses qui ne le mérite point, et pour toute espèce de chose sans discernement. L'homme faible et servile est tout le contraire. Il est donc clair qu'il y a place entre ces extrêmes inégaux pour un milieu. Paragraphe 4. Par conséquent, si ces deux dispositions sont vicieuses et mauvaises, évidemment, c'est la disposition moyenne qui est la bonne. Elle ne devance pas le moment, pas plus qu'elle ne vient après coup. Elle ne s'emporte pas pour des choses où il ne faut pas s'emporter. Et elle ne s'abstient pas d'avoir de la colère dans les cas où il faut en ressentir. Si donc la douceur est dans cet ordre de sentiments la meilleure disposition, sait qu'elle est une sorte de moyenne, et que l'homme qui est doux tient le milieu entre l'homme dur et l'homme servile. Chapitre 4. Sommaire. De la libéralité. Elle se montre aussi bien dans la perte que dans l'acquisition de la fortune. La libéralité, le milieu entre l'avarice et la prodigalité. Nuances diverses de l'avarice. Paragraphe 1. La grandeur d'âme, la magnificence et la libéralité sont aussi des milieux. La libéralité particulièrement se rapporte à l'acquisition et à la perte des richesses. Quand on se réjouit de toute acquisition de fortune plus qu'il ne faut, ou quand on s'afflige de toute perte d'argent plus qu'il ne convient, c'est qu'on est illibéral. Quand on sent ces deux circonstances moins qu'il ne faut, c'est qu'on est prodigue. On est vraiment libéral que quand on est dans ces deux cas comme il faut être. Lorsque je dis qu'on est comme il faut être, j'entends ici, comme pour toutes les autres situations, qu'on obéit aux ordres de la droite raison. Paragraphe 2. Il y a donc possibilité de pécher en ce genre, par excès et par défaut. Or, là où il y a des extrêmes, il y a aussi un milieu. Et ce milieu est toujours le meilleur. Le meilleur étant unique en son espèce pour chaque chose, il s'ensuit nécessairement que la libéralité et le milieu entre la prodigalité et l'illibéralité, en ce qui regarde l'acquisition et la perte des richesses. Paragraphe 3. On sait que ces mots de richesse et d'enrichissement peuvent se prendre en deux sens. Il y a d'abord l'emploi de la chose ou richesse en soi, c'est-à-dire en tant qu'elle est ce qu'elle est. Et par exemple, l'emploi d'une chaussure, d'un manteau, en tant que chaussure et manteau. Il y a de plus l'emploi accidentel des choses, sans que ceci veuille dire, par exemple, que l'on pourra se servir d'un soulier en guise de balance. Mais l'emploi accidentel des choses, soit pour en acheter, soit pour en vendre d'autres. Et dans ce sens-là, on peut fort bien se servir encore de sa chaussure. Paragraphe 4. L'homme avide d'argent est celui qui ne s'occupe que d'amasser des écus. Et l'argent ainsi accumulé lui devient une possession permanente au lieu et place de l'usage accidentel qu'il en pouvait faire. Paragraphe 5. L'illibéral, l'avare, serait même prodigue dans la manière indirecte et accidentelle dont la richesse peut être employée, car il ne poursuit l'accroissement de sa fortune qu'en amassant comme le veut la nature. Mais le prodigue en arrive à manquer même des choses nécessaires, tandis que l'homme sagement libéral ne donne que son superflu. Paragraphe 6. Les espèces, en ces divers genres, diffèrent d'entre elles du plus au moins. Ainsi, pour l'illibéral, on distingue le ladre, l'avare, le sordide. L'avare est celui qui craint de donner quoi que ce soit. Le sordide, celui qui cherche toujours à gagner même au prix de la honte. Le ladre, celui qui applique tous ses soins à rogner sur les plus petites choses. Enfin, il y a aussi l'escroc et le fripon qui se laissent aller jusqu'au crime dans leur illibéralité. Paragraphe 7. De même encore, pour le prodigue, on peut distinguer le dissipateur qui dépense avec un absolu désordre et l'homme insensé qui ne compte pas parce qu'il ne peut supporter l'ennui de faire un compte de ses dépenses.